Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue sur Pavillon Nomade. Nous voici arrivés au premier jeudi du temps ordinaire. Le week-end pascal est derrière nous avec ses gelées nocturnes. Le printemps s'installe dans le parc. Alors que les cimes sont encore enneigées, c'est un spectacle de toute beauté, particulièrement ici à Malévaux, où le cortège de floraison se poursuit durant tout l'été. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous allons faire connaissance avec quatre artistes qui ont déposé leurs valises ici à Malévaux pour 2 mois. Les premiers sont arrivés en mars. Il s'agit de Charlie Malga et de Léa Stoubi. Les suivants, François Badou et Léna Tognoli, sont venus avec les poissons d'avril. Mais autour de la table, il y a aussi Agnès. Bonjour. Suzanne et Johnny. Alors, nous allons commencer par faire connaissance et je débuterai avec Léa. Alors, j'ai appris ceci de la petite bio qui vous présente. Vous vivez à La Chaux-de-Fonds dans les montagnes neuchâteloises.
Oui.
Alors, je ne vais pas donner votre âge à l'antenne, mais dire que vous êtes diplômée de l'EDA de Sierre depuis juin 2025, ce qui fait que vous êtes un peu en début de carrière.
C'est ça.
C'est ça. Et vos démarches artistiques s'inspirent du monde onirique. Les rêves ont une grande place dans votre travail. Freud a écrit que le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Comment vous comprenez cette phrase ?
Désolée, je suis un peu stressée. Moi, j'aime beaucoup le côté onirique parce que justement, pour amener l'inconscient et le conscient ensemble et les lier. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les rêves. Donc, je trouve que la voie royale de l'inconscient, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase.
Vous pratiquez. Lorsqu'on travaille avec le rêve, est-ce qu'on s'expose un peu ? Est-ce qu'on expose un peu son inconscient ? Est-ce qu'on expose un peu son intimité ?
Ah oui, complètement. Complètement. Je trouve que c'est hyper intime. Mais en même temps, c'est très intéressant. Et j'ai une grande curiosité par rapport à ça. Donc oui, c'est exposer l'intime, ça c'est sûr.
Et puis, vous êtes personnellement impliqué, je vois dans la petite bio qui vous concerne, par la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Je suis aussi une patiente psychiatrique. J'ai un suivi psychiatrique depuis quelques années, mais maintenant je suis stable. Et du coup, je voulais particulièrement venir à Malévaux parce qu'il y a le lien direct avec la santé mentale. Et ça m'intéresse énormément parce que j'ai envie de déstigmatiser les tabous liés aux maladies psychiques. Et en travaillant dessus, j'essaye de le faire, justement.
Suzanne, vous avez une question déjà pour Léa ?
Oui. Est-ce que vous pensez aussi aux cauchemars ?
Ah oui, complètement, oui. J'ai des rêves lucides, j'ai aussi beaucoup de paralysie nocturne. Et du coup, ça se lie avec les cauchemars. Et du coup, c'est aussi une manière d'extérioriser ces moments difficiles et horribles parfois, de faire un travail pratique.
Alors, merci. On va passer à Charlie, qui est aussi arrivé au mois de mars. C'est votre tour. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes diplômé depuis une douzaine d'années. Vous avez exposé dans des lieux reconnus, comme le Palais de Tokyo, qui se trouve pas au Japon, mais à Paris, au Musée des Beaux-Arts de Paris. Vous êtes né en Dordogne, à Bergerac, pour être précis. Vous habitez et travaillez à Paris. Mais est-ce que c'est compliqué d'avoir comme compatriote Cyrano?
Avec son très très grand nez. J'aime beaucoup Cyrano parce que dans ma ville à Bergerac, il n'avait jamais son nez. Donc j'ai toujours fait beaucoup de nez. Dans mon travail, il y a toujours des très très grands nez. Ça vient sûrement de Cyrano ou de l'absence de son nez.
Mais est-ce qu'on ferait souvent référence Bergerac, Cyrano dans...
Oui, non, parce que finalement, je vis à Paris depuis au moins plus de 15 ou 18 ans peut-être.
Déjà ?
Déjà.
Alors vous pratiquez la sculpture, l'installation, la vidéo, vous travaillez souvent avec des matériaux mous. des matériaux de recyclage, voire des matières vivantes qui se dégradent. Alors, est-ce que c'est difficile d'admettre que vos œuvres vont se muter, changer de forme, voire disparaître ?
Je le cherche. Donc, non, je pense que le matériau souple, il permet de recevoir justement l'extérieur. Il admet en fait toute l'extériorité de l'œuvre et c'est ça qui m'intéresse. Donc tout l'extérieur, c'est aussi le temps climatique, toutes ces choses qui composent. Voilà, c'est pas comme dans un musée où les pièces elles sont. C'est comme un peu dans un cimetière où les pièces elles sont mortes. Moi, mes pièces, elles sont vivantes et il faut accepter les aléas de la vie.
Bon, dans les cimetières, ça bouge beaucoup aussi, je dois dire. Parce que je viens de passer plusieurs semaines, plusieurs jours aux côtés du Père Lachaise. Et j'ai l'impression que je voyais bouger les tombes d'un jour à l'autre. J'ai l'impression que c'est déplacé. C'est très vivant, ce cimetière. J'ai lu aussi que vos œuvres, elles interrogent le corps en refusant la distinction entre humain et non humain. Merci de nous expliquer un petit peu. Hein. Vous pouvez nous donner des exemples des corps humains et des corps non humains.
J'ai commencé par dire non humain il y a plus de 10 ans quand j'ai commencé à travailler sur les ersatz et notamment la viande qui était faite de synthèse. Donc l'extérieur, enfin le non humain, c'est le monde végétal, c'est le monde animal, mais c'est aussi le double, c'est aussi les ersatz qu'on crée. Et ça m'intéresse particulièrement, le double.
Le double, c'est aussi la poupée, le masque, qu'est-ce que vous appelez comme ça, le double?
Oui, il y a des masques, il y a plusieurs types de d'ersatz, mais la poupée, c'est peut-être ce que je fais ici. C'est à partir, je suis venue à Malevo avec 10 ans de débris, 10 ans de rebut de mon travail artistique. Et je me suis dit que peut-être pour essayer de reconstruire quelque chose, ce serait partir de ces détritus pour essayer de me reconstruire moi. Je ne fais pas normalement beaucoup de choses très figuratives, donc c'est un peu le début de la figuration dans mon travail, se reconstruire à partir de débris. Donc, et j'essaie de faire une poupée, mais elle n'existe pas encore, Gabrielle.
Ah non ?
Non. Mais pas tout à fait, elle est encore en petit bout.
Bon, ça rappelle aussi la Genèse, hein, parce que la première femme aurait été créée par un morceau pris à Adam, de la boue.
De la cuisse, hein, non ?
C'est une côte.
Pas la cuisse, une côte.
Okay. Une côte, puis hop, puis à partir de cette côte, l'anima, puis hop, ça s'anime. Comme une poupée de son. Vous connaissez les montagnes neuchâteloises de Léa Stoubi ?
Oui, très bien. Je connais très bien la Chaux-de-Fonds.
Parce que vous avez eu une résidence artistique là-haut. Hein ?
Exactement, il y a 2 ans. Presque. Peut-être 1 an et demi. Oui, 1 an et demi.
Après, quand on a fait le tour d'un peu de tout le monde, on parlera plus de vos expériences dans les diverses résidences, si vous êtes d'accord. Hein ? Là, on va un peu vite. Suzanne, vous avez envie de poser une question à Charlie ?
Vous trouvez que les choses, l'artistique, la création, tout ça, ça vient plutôt de l'extérieur ou de l'intérieur de soi ?
Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est, caché, oblitéré. Et je pense que l'intérieur... On se cache à nous-mêmes énormément de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est vrai que j'aime bien aller trifouiller à l'intérieur de ça. Donc, je dirais, chez moi, c'est l'intérieur plutôt. Mais quand je vais en résidence, par exemple, ça me fait du bien aussi de sortir. Je suis quelqu'un qui bouge énormément, qui n'arrive pas à rester en place. Donc, je fais beaucoup de résidences. Je travaille toujours dans au moins 2 voire 3 lieux en même temps. Donc ça vient aussi beaucoup de l'extérieur, peut-être. J'essaie d'aller voir ce qui s'y passe, mais j'essaie de fuir aussi l'endroit.
Merci Charlie, on va passer à Elena. Alors, je ne sais pas si je dois lui dire bonjour, buongiorno, buenos dias ou hello, parce que vous êtes italienne, vous avez étudié à Milan, à Londres, vous avez travaillé en Espagne et vous vivez en France. Alors, comment on se salue ?
Bon pomeriggio.
Ok, bon après-midi. Alors, vous avez été finaliste du prix Artemisia de la bande dessinée féminine, ce qui nous ramène aux montagnes neuchâteloises de Léa Stoubi. Puisque l'Artémis, c'est la plante qui permet de produire de l'absinthe. Et l'absinthe, c'est ce qui a fait pour la gloire et la fierté des montagnes neuchâteloises. Donc on va toujours revenir à la Chaux-de-Fonds ou au Val de Travers. Vous naviguez alors entre poésie, illustration, les langues, les cultures, la langue italienne, la langue française, la langue espagnole, l'anglais. Qu'est-ce que ces langues, elles apportent à votre travail, ces différentes sonorités?
Je crois, alors, deux choses. La première chose, le prix Artemisia, je crois que, en fait, est nommé après la peintre italienne Artemisia Gentileschi, une des peintres qui n'a pas été effacée par l'histoire de l'art. Mais ça fait écho à la plante aussi, donc c'est très bien. Et je crois que nous sommes parlés par les langues. Nous croyons parler, dire des choses, mais souvent, ce sont les langues qui nous parlent, qui nous font dire des choses, et des langues différentes nous permettent de dire des choses avec des nuances différentes. Et moi, je travaille, j'écris de la poésie, et je crois que mon travail, souvent, cherche un peu à faire en sorte que les langages, les langues que je parle deviennent étranges, encore plus étranges, pour vraiment essayer de faire sauter tout ce qui est les langages communs, où il y a beaucoup de stéréotypes nichés, beaucoup de choses. Donc, voilà.
Moi, j'ai une question, parce que est-ce qu'on ne s'y perd pas en plusieurs langues? Est-ce qu'on ne va pas creuser pas assez loin? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt de la superficie que de la profondeur? Parce que, personnellement, Je maîtrise pas mal l'allemand, mais quand même en superficie, et profondément le français. Et le français, pour moi, est très... il paraît que c'est une langue pauvre, mais en fait, pas vraiment, parce que moi, je trouve toujours le dernier mot.
Alors vous, pour trouver le dernier mot, ça serait dans quelle langue? Dans votre langue maternelle?
Elena, c'est très philosophique. Déjà, oui. Il faut s'interroger, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire parler une langue. L'italien est ma langue maternelle, mais l'italien que je parle, ce n'est pas l'italien de quelqu'un d'autre. Et ça ne dépend pas exclusivement de la région, mais chacun parle sa langue à lui, à elle. Et je crois que parler plusieurs langues, c'est un super pouvoir. Parler d'autres langues, ça permet de voir mieux sa propre langue aussi. Et il y a des expressions qui sont parfaites pour exprimer quelque chose dans une langue qui sont intraduisibles. Et je crois qu'en définitive, une chose qui est profondément humain, c'est la traduction. Les êtres humains, ce sont des animaux qui traduisent, qui peuvent traduire les langues qui parlent d'autres animaux humains. Donc je crois qu'exister entre plusieurs langues, c'est profondément humain.
Et dans vos poésies ou dans vos textes, vous mélangez des vocables d'une langue avec une autre, vous en créez une?
Non, je ne dirais pas. J'écris en italien et j'ai réécrit en français. J'ai un texte qui a été traduit par une traductrice. Et j'ai un recueil en cours où j'écris pour la première fois en français. Mais peut-être je vous dirai plus tard pourquoi. Je me suis autorisée à faire ça.
Alors, on reviendra plus tard, on va vers François.
Salut.
Alors, François, vous êtes né en Suisse, mais vous vivez à Bruxelles. Et je n'ai pas trouvé dans votre biographie un lien avec les montagnes neuchâteloises. Peut-être que vous en avez. Peut-être vous en avez un.
Mais non, il n'y en a pas.
Ah, ben voilà. Donc, le seul qui n'en a pas, c'est le Suisse, le plus proche. Alors, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur de théâtre, de films, de pièces radiophoniques.
Je joue dans des films, mais je n'écris pas de films.
Ah, ok. Alors, je reviens.
Des pièces radiophoniques, oui.
Oui, des pièces radiophoniques, dont une, Descendre. C'est une œuvre qui mêle de la fiction et des faits historiques. qui nous interroge ici à Malévo, puis ça, c'est le problème des internements administratifs des jeunes gens ou des adultes. Mais pourquoi ce thème précisément? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ce thème des internements?
Qu'est-ce qui m'a donné envie? Déjà, la découverte du sujet. C'est-à-dire que quand j'ai découvert ce qui s'était passé en Suisse jusqu'en 81, je ne sais pas s'il faut revenir sur l'histoire ou pas.
Rapidement, donc, puisqu'il y a des personnes ici qui sont...
Rapidement, on a en Suisse interné des gens, on va dire contre leur, contre leur gré, sans qu'il y ait de cadre légal à cela, juste pour des problèmes de comportement qu'on jugeait immoraux ou contraires à la bienséance. Mais ça pouvait aller jusqu'à des internements de 3 ans. En fait, et on ne disait pas pourquoi ils étaient enfermés. Et ça pouvait être en prison. Il y a eu des avortements, des stérilisations forcées, des choses quand même très, très violentes.
Victimes tout particulièrement, ce qu'on appelait les gens de la route aussi, ont été victimes de ces internements.
Des gens de la route?
Ouais.
Ah, des qui voyageaient. Ok, d'accord. Ça, je ne savais pas exactement. Merci pour cet éclaircissement. Mais oui, quelle était la question?
Alors, vous avez appris ça, ça vous a choqué. Vous avez eu envie de créer une œuvre en mêlant alors justement de la fiction et de la réalité. Quelle part de fiction et de réalité vous avez?
En fait, j'ai énormément lu de témoignages. Je me suis beaucoup documenté. Et à partir de ça, en mémoire de ça, j'ai écrit une fiction. Il me semblait important de faire ça, justement pour, pouvoir fictionnaliser ça et déployer une certaine émotionnalité par rapport à ce qui s'est passé. Moi, cette émotionnalité, je l'ai ressenti quand j'ai découvert l'histoire, et c'est comme si j'avais eu l'impression, puisque je suis né en Gruyère, de voir mes voisins, de voir les gens autour de moi, dans leur façon d'habiter leur corps, marqués par cette histoire. Comme si eux-mêmes avaient été marqués par cette histoire.
Et puis vous avez choisi un média particulier, vous avez fait une pièce radiophonique avec tout ce matériel.
Oui, et aussi... En fait, ça a commencé par un texte qui était censé être du théâtre. Puis, il y a eu le Covid, et donc c'est devenu une pièce radiophonique. Et par la suite, encore, une pièce théâtrale.
Alors, cette pièce radiophonique, on peut l'entendre? Il y a des extraits?
Oui, elle est en ligne. Sur, par exemple, radiola.be, vous pouvez la trouver. Voilà.
Puis on pourrait mettre un lien, le pavillon nomade, vers ce...
Carrément.
Carrément.
Ouais,
on pourrait la diffuser?
Oui.
Combien de temps ça dure?
54 minutes.
54 minutes, ben voilà, une fois une émission spéciale et on balance cette pièce.
Ouais. Avec grand plaisir.
Bon, alors voilà, nous avons terminé ce premier tour de table et nous allons faire une première pause musicale. Un morceau qui a été choisi par Charlie. Tu veux nous donner le titre?
Taking out the trash.
Alors on va écouter du trash. Voilà, on se retrouve ensemble autour de la table ronde du studio de Pavillon Nomade. Il y a Johnny, Suzanne, Charlie et Anna, Léa et François. Nous parlons des résidences d'artistes. Et en lisant vos biographies respectives, j'ai compté une vingtaine d'expériences de résidences d'artistes. Alors, je me disais que je voulais essayer de comprendre d'abord quelle importance dans le parcours d'un artiste être en résidence. Charlie, peut-être ?
J'ai un peu dit tout à l'heure, mais je crois que c'est aussi se lancer un peu dans l'inconnu. Je pense aller en résidence et sortir de son atelier, sortir de son réseau d'artistes aussi. Voilà, moi j'ai fait l'école à Paris, après je suis restée pas mal à Paris, donc mon réseau il est à Paris et parfois je ressens la nécessité d'en sortir. Voilà, donc là, c'est particulier parce que ces dernières années, j'ai fait pas mal de résidences en Suisse. J'aime beaucoup la Suisse, voilà. Et je découvre des coins très différents, mais toujours proches, soit du lac, soit des montagnes. Donc, j'ai l'impression de m'épanouir ici.
Mais en Suisse, justement, vous avez fait des résidences dans des lieux incroyablement différents. La Bec, vous pouvez juste nous expliquer à quoi ça ressemble ?
Ce sont des petits pavillons, 8, je crois, tout au bord du lac Léman, en face de la vallée du Rhône, comme ça, qui...
Entre Vevey et Montreux, par là, non ?
Ah, la location, oui, c'est à la Tour de Paix. Voilà, c'est une résidence qui commence à être pas mal répertoriée. Il y a beaucoup de personnes issues de la musique... des artistes plasticiens, plasticiennes, et aussi pas mal de personnes qui font du design et de l'écriture. Moi, j'ai pas été dans le... J'y suis allée pour une résidence de production, parce que je préparais une exposition au musée, le MCBA, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, pour une exposition qui s'appelait « Surréalisme, le grand jeu ». Qui était en 2024, et j'ai réalisé une pièce sonore là-bas pour accompagner un film qui a été diffusé après au MCBA.
Et une autre résidence à La Chaux-de-Fonds, au musée cantonal. Donc on peut faire des résidences dans un musée.
Oui, alors c'était dans un atelier, un appartement qui n'était pas exactement dans le musée. Mais j'avoue que j'aime beaucoup la collection du musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds et... David Lemaire et Marie Gage qui étaient Marie Gage qui maintenant a Vevey mais qui était à ce moment-là au musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. J'ai fait des tours dans les collections et avec le directeur il s'amuse beaucoup à faire bouger les collections, donc on retrouve tout le temps les mêmes pièces mais agencées de manière différente, et c'est un des premiers musées qui m'a fait exploser de rire en allant voir les collections. Voilà.
Puis, à La Chaux-de-Fonds, il y a quand même une particularité, c'est qu'un peintre a donné le nom à une avenue. Et puis cette avenue, elle a un petit surnom.
Oui, elle a un petit surnom, cette avenue, le Pod.
Le Pod, l'avenue Léopold Robert. Et on va dire, on va se faire un Pod. Et c'est le passé haut chez eux, à La Chaux-de-Fonds, se faire le Pod à 1000 mètres d'altitude. Vous avez apprécié d'être dans cette ville, ancienne ville horlogère, symétrique, carrée ?
Je suis complètement tombée amoureuse de La Chaux-de-Fonds.
Ah bah oui.
Alors, je ne sais pas si c'est possible de tomber amoureuse d'une ville, mais vu que je travaille, j'aime bien les non-humains. Est-ce qu'une ville peut être un non-humain ? Et je suis, voilà.
Elena, vous avez fait, dans votre parcours, il y a deux lieux de résidence qui m'ont intrigué. Une fois, j'ai vu, je ne sais pas si je me trompe, c'était Alta Terra.
Terra Alta.
Pardon, Terra Alta. Alors, ça se trouvait où et qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
La résidence Terra Alta, c'était dans un centre culturel dans une vallée des Alpes italiennes, la Val Camonica, qui d'ailleurs est la vallée d'où mon père est originaire. C'est en vallée à nord-est de Milan. Et c'est un centre culturel qui est... En fait, c'était financé pour le ministère de la Culture italien. Et c'est un centre culturel qui est géré en partie par une coopérative qui travaille avec des gens en situation de handicap. Ils ont toute une programmation culturelle. Bon, ça m'a fait penser un peu au centre culturel ici, au Torrent, qui est entre cuisine, agriculture, culture, programmation culturelle de présentation, etc., conférences. Et c'était une résidence sur un an et demi. Je ne suis pas restée là-bas un an et demi, mais je suis allée à plusieurs reprises. Et j'étais en duo avec un binôme avec Giacomo Sartori, qui est écrivain et ingénieur agronome, avec lequel je travaille souvent ensemble. Et on mène une recherche sur le sol, le sol, la terre, pas le carrelage, la terre. Et l'idée, c'est un travail que nous avions commencé dans le nord de la France, dans la Somme, dans le cadre d'une autre résidence. Donc, pour répondre à ta question sur les résidences, je crois que pour moi, les résidences m'ont servi à m'enraciner quelque part plutôt qu'à me déplacer, parce que ça fait pas très longtemps que je suis en France, ça fait 5 ans. Donc, grâce à des résidences, j'ai découvert un peu le territoire français et la langue, etc. Et donc, dans la Somme, nous avions commencé à essayer de trouver les mots et les images pour narrer la terre, les sols, cet élément qui est un peu dur à observer, qui n'est pas très ragoûtant. Souvent, les gens, il y a des préjugés liés à ça. Et nous avons continué cette recherche entre écriture et dessin, là, dans ce petit village à 1200 mètres.
Comment il s'appelle le village alors ?
Monno. Monno. C'est pas loin d'Edolo, d'où j'ai découvert, pour la petite histoire, que la grand-mère d'une des personnes qui travaille au centre culturel est originaire ici. Donc il y a des descendants de cette vallée ici à Malevo.
Très bien.
Et pour terminer, bon, la cité maraîchère, c'est un super endroit dans la banlieue parisienne, proche banlieue, à Romainville. Et c'est un endroit qui s'occupe d'agriculture urbaine. Donc c'est une serre verticale où ils font des maraîchages urbains. Et après, ils ont repris des anciens jardins ouvriers où il y a des parcelles qui sont gérées par la population et par le personnel de la cité maraîchère. Et là, on a fait, toujours avec Giacomo Sartori, une expo et d'autres initiatives.
Ça, c'est à Romainville.
Romainville, oui.
Et ça se trouve où ?
Bon, c'est la banlieue à l'est parisien.
On profite de faire un peu de géographie, on se déplace.
Oui, oui, oui. L'Est parisien.
La Chaux-de-Fonds, la Bec, les Dolomites. Et François, tu as eu d'autres expériences de résidence ?
Oui, mais alors en théâtre, c'est beaucoup autour de création, de différentes recherches. J'ai eu une résidence d'écriture à l'époque. À Namur, en mars, j'ai fait une résidence à Liège avec Factory. C'était sur un projet d'un membre du collectif autour d'une écriture qui n'était pas la mienne, mais j'intervenais comme acteur-créateur. Et avant de venir ici, j'ai fait une résidence avec mes actrices sur le projet qui est en cours, voilà, de recherche autour des personnages. Et voilà, là, c'est une résidence plus d'écriture. Donc, enfin, nous, les résidences en théâtre, c'est beaucoup quand même orienté vers... Enfin, je sais pas comment dire. C'est orienté vers la création théâtrale, évidemment, quoi.
Oui, mais justement, voilà. Souvent, les théâtres...
C'est pas tout à fait pareil que l'art visuel.
Oui, justement, souvent, le théâtre réclame une boîte noire. Et puis, on a l'impression que ces boîtes noires, elles sont les mêmes, qu'on soit à QI, à la Chaux-de-Fonds ou à Milan. Alors... Est-ce que ça a un sens lorsqu'on est en relation avec son environnement, son territoire, lorsqu'on est en création théâtrale ?
Oui, parce que c'est artificiel, le théâtre. On recrée un monde de manière avec des artifices. Et donc on a besoin d'un espace, je dirais, la boîte noire. Alors pourquoi pas une boîte blanche ? Bon, ça peut être une boîte blanche. La boîte noire peut se transformer. Mais je pense que le silence est une qualité vraiment importante. Faire du théâtre en rue, c'est pas pareil que de faire du théâtre dans une boîte noire.
Puis comment, Léa, peut-être, comment on s'installe ? Ça, je vais vous poser la question, parce que j'ai visité vos divers ateliers, et puis ils ont tous été personnalisés. Alors comment on s'installe ? Comment on fait pour prendre ses marques, pour faire que cet atelier il soit un peu le sien ? Quel a été ton truc ?
Ben, moi, déjà, cet atelier-là, il est hyper grand comparé à celui que j'ai à Neuchâtel. Donc, ça m'a permis de faire plusieurs postes de travail. Et du coup, chaque petit poste a sa fonctionnalité. Mais tout se mélange quand même. Et on s'installe gentiment et doucement au fur et à mesure. Là, je suis encore en train de m'installer, je pense.
D'ailleurs, nous avons donné des noms à chaque atelier, des noms un peu poétiques, parce qu'ici, on numérotait les pièces. Alors, cette pièce, à une époque, elle s'appelait la salle bleue, parce que le sol est bleu, était bleu. Voilà. Et puis, on l'a rappelé le ponton, parce qu'il y a un petit ponton qui permet d'atteindre votre atelier.
C'est beaucoup plus poétique que la salle bleue, je trouve.
Tandis qu'Elena, elle se trouve dans une salle qu'on a appelée le poinçon, pour deux raisons. Le poinçon, c'est ce petit outil qu'on utilise lorsqu'on est enfant, c'est le premier outil de bricolage. Avant même le ciseau, on fait du poinçon. Et puis, le poinçon, c'est aussi la pièce de menuiserie qui verticale, qui tient la charpente. Et vous, j'ai vu que vous avez aussi, vous êtes installé, vous avez amené du matériel dans cette salle.
Oui, des branches de glycine que je trouvais ici, qui venaient d'être coupées. J'ai tout de suite été fascinée par les serres ici à Malévaux. Donc, je piquais des plantes que j'utilise pour mes ateliers avec les patients. Et en fait, j'essayais un peu de casser la frontière entre intérieur et extérieur d'amener des petites créatures pour me tenir compagnie.
C'est quoi ces petites créatures? Alors,
avant de dire, il y a plantes, de la déjà. Des plantes. C'est sûr qu'il y a des insectes, il y a des abeilles qui rentrent de temps en temps. Je laisse les fenêtres ouvertes et j'observe beaucoup les insectes. Normalement, quand j'arrive dans un nouveau atelier, je trouve une grande araignée. Ici, je n'ai pas encore trouvé, mais je suis sûre qu'elle est là, quelque part.
Et Charlie, comment vous avez aménagé ou pris possession de l'atelier Le Sismo, qui est un grand espace lumineux avec des grandes fenêtres? C'est un peu une privilégiée, je crois.
Oui, j'avais un peu. Enfin, je lorgnais depuis longtemps sur cet atelier. J'avais fait la demande particulière. Surtout qu'il n'avait pas encore été utilisé comme atelier, je crois.
Sous cette forme, non, il avait déjà été utilisé, mais il y avait encore des cloisons. Là, ouvert comme ça, vous êtes la première.
Déjà, Sismo, tu m'as expliqué un petit peu que c'était un endroit où on pratiquait des électrochocs il y a quelques temps. Et j'aime beaucoup cette idée parce que dans mon travail, on en a parlé, j'utilise des matériaux souples et l'animation, c'est quelque chose qui m'intéresse et aussi la réanimation. Donc peut-être pas en psychiatrie, mais il y a cette idée de choquer un peu la vie comme ça. Et j'ai ramené tous mes bouts d'atelier, tous mes rebuts. Et là, ça me fait aussi penser un peu au cabinet du docteur Frankenstein, où je donne peut-être pas encore vie, mais que je suis en train de créer cette créature qui sort de mes déchets, à laquelle je vais pouvoir donner vie. Donc ta question, c'était comment je j'aménage. C'est vrai que je suis arrivée avec énormément de matériel depuis Paris, avec un camion pour transporter mes déchets. Je fais souvent ça quand je pars en résidence. Même parfois, je me déplace avec mon compost, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec Elena, nous partageons ce petit kink du sol, de la terre. Et là, je suis même venue avec mes collemboles de chez moi, qui sont des petits orthopodes minuscules, encore plus petits que les insectes avec lesquels je vis. Je ne peux pas m'en séparer, c'est impossible.
Ça ressemble à quoi? Ça a des pattes, plus podes?
Ça a six pattes. Et c'est complètement transparent, et puis ça a quelque chose de magnifique. C'est une petite chose qui se déploie au niveau de l'abdomen pour faire des bonds. C'est comme si nous, on pouvait se déplacer au-dessus de la montagne en un coup, parce qu'ils font des bonds jusqu'à 8 mètres, alors que c'est minuscule.
Ah bon? Elena?
Si je peux reprendre la thématique collemboles... dans les résidences, il y a des synchronicités qui se manifestent. Et bah, justement, quand j'ai vu les collamboles de Charlie, bah, pendant la résidence dont je viens de parler dans la Somme, je passais des mois à dessiner des insectes et des petites créatures comme les collamboles. J'ai toute une collection de dessins des collamboles. Donc voilà. Déjà, ça fait une semaine que je suis là et j'ai trouvé plein de petits liens qui, avec les pratiques des autres artistes. Dès maintenant et du passé aussi, d'autres artistes qui ont été ici.
Dans les diverses résidences que vous avez connues, il y avait d'autres artistes où vous étiez avec, par exemple, à la BEC, il y avait d'autres artistes.
Oui, alors après, c'était un moment qui était assez... Il n'y avait pas beaucoup d'artistes quand j'y étais. Il y avait pas mal de gens qui venaient plutôt de la critique d'art. Mmh. Je me souviens pas de tous les noms. Et puis surtout, à ce moment-là, je travaillais énormément. Je suis pas beaucoup sortie de mon atelier.
Même pas pour aller faire quelques brassées dans l'eau du Léman.
Non, c'était en mars. Il faisait beaucoup trop froid. Et puis je suis très frileuse. Et puis j'aime pas l'eau. Ah. Je suis scorpion. J'aime les eaux stagnantes, les marécages.
Alors, Charlie, je devrais pas vous dire, mais on a deux points communs.
Ah oui, les marécages et les collamboles.
Non, j'aime pas l'eau et j'adore la chaux de fond. C'est vrai. Voilà, on peut passer une petite pause musicale. Qui avait choisi la deuxième musique? C'était Suzanne, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique? C'était
Grimmelwald.
All right.
Tous les hommes que tu as connus te disaient qu'ils ne voulaient plus donner les cartes prises comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Et qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil oreille de train, il dit : je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Maintenant un autre étranger semble vouloir que tu ignores ses rêves comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as vu cet homme déjà donner les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommeil dans l'ombre, tu vois comme une fumée, une route qui monte derrière sa tête, une route qui monte derrière sa tête. Tu lui dis d'entrer, de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte. Et quand tu prends sa main, il dit : n'aie pas peur, ma tendre amie, ce n'est plus moi, oh mon amour, l'étranger. Ce n'est plus moi, oh mon amour, l'étranger. J'ai attendu toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre. Oh, je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret. Ni personne peut me conduire.
et tu te demandes ce qu'il cherche à dire. Oui, tu te demandes ce qu'il veut dire. En bas au bord du fleuve, demain je t'attendrai, si tu veux bien, là tout près du pont qu'ils construisent. Puis ils quittent le quai pour un wagon-lit, tu sais qu'ils cherchent un autre abri, qu'ils n'avaient jamais été un étranger, qu'ils n'avaient jamais été un étranger. Et tu dis d'accord, le pont ou bien ailleurs, je viendrai. Puis ramassant les quatre qui sont restés là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour, penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil oreiller de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger.
Voilà, c'était L'étranger, une chanson de Leonard Cohen qui est reprise par Grim Allwright, comme beaucoup de chansons de Leonard Cohen a été traduite en français par Grim Allwright. L'étranger, en étranger, on revient ici à Malévaux. Pour vous, c'est l'étranger un peu, vous êtes venu ici. Alors, pourquoi avoir choisi, François, de venir à Malévaux?
Ben, parce que c'est le retour dans mon pays, dans mes montagnes. Moi, quand j'ai vu cette résidence, j'ai fait « Ah ouais, super !» Mais après aussi parce que j'avais un projet à y faire.
Mais il y avait une autre possibilité, ou bien comment tu as trouvé le lieu?
Je sais pas. C'est arrivé sur mon fil Instagram et j'y ai répondu au moment où j'en avais besoin.
Ah,
voilà.
Léa, elle profite presque de népotisme quand même, hein, parce que Léa a gagné un concours, c'est pas la même chose, et oui. Voilà. Mais il y avait une Stoubi qui était ici au moment. Donc vous étiez déjà venu voir la résidence, juste?
Oui, je suis déjà venu voir la résidence plusieurs fois parce que, vu que j'ai étudié le bachelor et le master à l'EDA, il y a cette collaboration entre le quartier culturel de Malévaux et l'EDA. Et je connaissais plusieurs personnes qui ont déjà fait la résidence. Donc je suis déjà venu il y a, je sais quoi, en 2021. Et j'avais adoré cet endroit et je m'étais dit que j'avais bien envie de. Quand le temps viendra de faire cette résidence. Donc, je suis très contente d'avoir gagné le concours à la fin de mon master parce que, du coup, je suis arrivée à ce moment de la résidence et je trouve que ça me convient tout à fait.
Très bien, ben bravo, merci. Elena, comment vous êtes arrivée ici?
Un peu comme François, je crois. C'est une amie qui m'avait partagé les liens de l'appel à projet. J'avais répondu et Malévaux m'a choisie. Avec toute l'équipe qui est ici. Et c'était vraiment un bon moment parce que c'était il y a un an à peu près. Et c'était un moment où j'avais l'impression que tout allait mal. Et c'était vraiment une belle nouvelle au bon moment.
Et puis, vous êtes ici, tout va mieux?
Oui, depuis un moment, tout va mieux. Mais voilà, la vie d'artiste un peu fluctuante.
Et vous avez appris aussi sur le fil Instagram ou bien comment vous avez...
C'était une copine qui m'avait partagé les liens Instagram, oui. Non, pas dans le feed, c'était un message qu'elle m'envoyait.
Vous allez l'inviter?
Tout à fait. Je lui ai écrit aujourd'hui parce qu'elle a pris des nouvelles des mois pour me demander comment ça s'est passé. Et je lui ai dit, c'est super, il faut que tu postules aussi pour la prochaine édition.
Ah, c'est une artiste?
Oui. Elisabetta.
Charlie?
Alors moi, j'ai vu aussi sur le feed Instagram la résidence et c'était le dernier jour pour postuler. Donc, ce qui m'a un peu attiré l'attention, même beaucoup, et qui m'a donné envie de venir ici, c'est que j'ai grandi dans un village psychiatrique, à La Force, en Dordogne, en France. Et que ce village, c'est un peu une fondation qui gère ça. Et ça fonctionnait un petit peu comme Malévo, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de quartier culturel où tout fonctionnait autour du théâtre, des ateliers bois, des ateliers de peinture. Et j'ai grandi avec ça. Et maintenant, ça n'existe plus vraiment parce qu'ils ont beaucoup fermé les portes, alors qu'avant, les portes étaient tout le temps ouvertes et il y avait des fleurs partout. Et maintenant, c'est plus le cas. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller voir à Malévo comment ça se passe, voir s'il y a des fleurs.
Il y en avait, hein.
Et il y en a beaucoup. J'en ramène aussi beaucoup à l'atelier. C'est plein de couleurs et ça fait du bien de savoir que ça existe toujours quelque part.
Charlie nous a dit qu'elle était venue avec un camion. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la valise d'Elena pour venir ici? Est-ce qu'il y a un objet fétiche ou bien...
C'est une petite valise. J'ai pris des chaussures de randonnée parce que j'aime bien... Je suis un peu montagnarde, donc j'aime me balader. Et j'avais acheté beaucoup de plumes à dessin. Parce que j'aime dessiner à la plume et c'est un peu difficile de trouver des bonnes plumes. Donc j'en ai acheté beaucoup avant de partir, mais elles ne prennent pas beaucoup d'espace dans la valise, donc c'est pratique. Et un album à dessin avec du bon papier aussi, où les plumes glissent bien. Ça aussi, c'est difficile de trouver la bonne combinaison entre plume et papier.
Mais ça, c'est d'accord, ça c'est pour le travail, mais vous aurez bien un petit talisman, un petit...
Non. Non, désolée, je n'ai rien d'intéressant, en fait. Des livres, je peux vous dire ce que je suis en train de lire. Non, je me suis dit que je trouverais quelque chose ici. J'ai tout de suite trouvé une pierre que j'aime bien, que j'ai ramenée dans ma chambre, d'ailleurs.
Et que vous pensez la ramener chez vous?
Oui, c'est du granit. Et en fait, les montagnes de la vallée dont je vous ai parlé, dont mon père, ma famille est originaire et où je fais cette résidence, ce sont des montagnes en granit. Et ici, j'ai retrouvé la même pierre, donc j'ai pris un bout de granit.
Mais vous savez que ces blocs de granit qu'on trouve ici dans le parc, c'est des blocs erratiques,
oui, oui,
qui ont voyagé,
oui,
sur le dos d'un glacier pour venir se déposer ici. Léa, vous avez-vous un objet fétiche?
Je suis désolée, mais non, pas vraiment. Je dirais que j'ai pris mes livres, quoi. Un livre, c'est un objet fétiche pour moi. Mmh. Du coup, j'ai pris mes livres. Et sinon, mon matériel de broderie, c'est aussi un peu fétiche.
Et dans votre valise, il y avait quoi, si on ne parle pas d'objet? Quelle idée vous aviez quand vous êtes venu ici? Quelle volonté?
J'avais la volonté... Ce que je me réjouissais beaucoup, c'était le partage avec les patients, avec la patientèle, et voir si c'était possible de leur amener une bulle de sécurité comme moi j'en aurais eu besoin à l'époque. Et du coup, j'essaye de rendre ça possible. Du coup, j'avais cette envie de partage et de bienveillance et de sécurité avec moi.
Mais il y a du matériel, j'ai vu, il y a des tissus, il y a du... Ça, vous avez pris avec vous, ça?
J'ai pris une grande partie de tissus, de fils, d'aiguilles. Et puis, j'ai eu la gentillesse de la maman de Marianne qui m'a amené beaucoup de matériel qu'elle voulait se débarrasser, je crois.
Ah oui, la maman de Marianne, c'est un personnage.
Ça, elle a l'air.
Qui sait tout faire, hein.
Et ouais, elle m'a donné énormément de tissus, énormément de fils aussi. Et du coup, il y en a plein qui sont magnifiques. Et je suis très contente d'avoir pu les récupérer. Parce que j'utilise du tissu récupéré en général. J'achète jamais neuf.
Alors, de fil en aiguille, on arrive à François. François, vous êtes venu ici pour terminer un travail qui est en cours. C'est bien ça?
Oui, alors si j'arrive à le terminer, miracle, parce que j'ai l'impression que c'est titanesque. Mais bon, je me promène dedans et j'avance.
Alors, vous travaillez sur ordinateur, vous?
Oui, oui, oui.
Donc, j'écris. Sur l'ordinateur?
Sur l'ordinateur.
Un tapuscrit, ça sera un tapuscrit.
Exactement.
Donc, il n'y a pas de fil, il n'y a pas comme là. Tous les autres sont dans la matière. Ici, on est dans le...
Ah, mais j'ai pris des bouquins avec moi aussi. Quand même, la matière de la langue, c'est pas rien. Et puis, il y a. Des matières qui sont traitées aussi par la pièce.
Et qu'est-ce que vous allez proposer aux patients durant les ateliers ?
Donc, ce sont des ateliers de théâtre et je propose de travailler sur le lien entre lieu, rite, ou rituel, et récit, ou mythe. Donc, comment est-ce que dans un lieu qui nous est cher, dans un lieu qu'on habite, c'est pas le comment en fait, dans un lieu qu'on habite, puisqu'on habite, peut-être qu'on y fait des rites. Et puis ensuite, quand on veut transmettre ces rites, ça fait des récits. Voilà.
Et puis, je travaille. Où se passent ces ateliers ?
Alors, soit dans le théâtre, le RACO, soit dans la salle de musique.
Ok, donc vous avez de l'espace. C'est une mise en espace. Comment vous travaillez ? Expliquez-moi un peu mieux.
Pour moi, je travaille vraiment à partir des personnes qui viennent aux ateliers. Donc, la dernière fois, il s'agissait de les mettre en contact avec un lieu et puis qu'ils puissent nous dire comme ça... Je suis à la plage. Derrière moi, il y a ça, je vois ça, etc. Alors qu'évidemment, on n'est pas à la plage. Mais parce qu'on le dit, on y est. Et ça, c'est la magie du théâtre.
Voilà, on fait le lien avec la Chaux-de-Fonds. Parce qu'à la Chaux-de-Fonds, il y a un festival de théâtre de rue qui s'appelle la plage des six pompes. Un festival, c'est juste. Johnny, vous participez, vous, des fois, aux ateliers ?
À mon niveau, pratiquement, qu'un ergot. Je fais que de l'argot, le reste un peu de pétanque. Quand le stade de tennis a ouvert, un peu de tennis, c'est plutôt lié sport que culturel.
Mais vous voulez pas faire un peu de théâtre là avec
J'en ai eu fait de 17 à 20 ans à Saillon, les Tronches à Mauzon, il y avait une troupe de théâtre. Mais là, ça fait 40 ans que je n'ai plus fait. Mais ça m'intéresserait d'aller voir une fois comment ça se passe.
Mais on risque rien parce que le propre des ateliers, on n'est pas obligé de participer. On peut regarder. Un peu comme si on faisait du foot, puis on peut être soit acteur, soit spectateur.
Ou remplaçant.
ça vous connaît le foot.
Oui, ça me parle beaucoup. Ouais.
Alors François, on a compris. C'est quel jour ?
Vendredi.
Le vendredi. Donc le vendredi, on peut te retrouver soit au théâtre du RACO, soit à la salle de musique. On va à la buvette, puis on est orienté.
Oui, à la buvette à 15h.
Voilà. Léa, qu'est-ce que vous proposez aux patients ?
Eh bien, moi, je propose de la broderie. Et en fait, j'ai été demandée de décorer le mât de mai. Le mât de mai, c'est un mât qui est érigé à l'ouverture du jardin et qui est enlevé à la fermeture du jardin. Et j'ai décidé de le décorer avec du tissu et avec la participation des patients et des patientes. Du coup, je leur demande sur des petits morceaux de tissu de broder quelque chose. Pour ceux que c'est peut-être trop minutieux, je propose aussi de la peinture sur tissu, mais il y en a moins qui font. Et du coup, on brode ensemble dans le silence ou dans la musique et on passe un bon moment. Et après, avec ces petits carrés de tissu, je les assemble en ligne et comme ça, ça me fait des espèces de fils qui voleront au vent sur le mât de mai. Et voilà, je propose ça aux patients.
Et qui, comme les œuvres de Charlie, vont être un peu brûlées par le soleil, un peu délavées.
Exactement, ils vont vivre avec leur temps et ça va être très intéressant de voir le résultat à la fin de ces quelques mois d'exposition au soleil, à la pluie, à la neige. Non, je ne sais pas, mais voilà.
Alors, à la fin du mois, il y aura un défilé avec ce mât, il y aura de la musique, on va aller au jardin, on va l'élever. Et ça sera une petite fête et ça sera vraiment l'ouverture de la vente des plantons. On parlait de rituel, ben voilà, c'est un rituel que nous avions inventé, l'élévation du mât de mai. C'est une tradition d'élever les mâts de mai.
Oui, je crois dans les pays du Nord, c'est une tradition d'élever des mâts, puis de faire une grande fête, puis de les décorer avec des fleurs, puis de s'habiller avec des costumes, et puis de tourner autour et de danser autour de ce mât de mai. Du coup, ouais, c'est une question de tradition. Ouais.
Alors, Elena, il faudra vous déguiser hein, avec les fleurs, mais pas avec les petits pots de comment ça s'appelle ça, les petits bestioles.
Un colimbole.
Ouais, un colimbole.
Peut-être un ver de terre. Moi, j'aime bien les vers de terre aussi.
Ou un colimbole. Et vous, qu'est-ce que vous proposez au... Et c'est quel jour, je m'excuse, Léa?
C'est le lundi après-midi.
C'est le lundi après-midi, on vous trouve au Ponton, l'ancienne salle bleue qui a aussi été salle d'informatique. Les salles ici ont changé de fonction. Alors, Elena?
Moi, je propose des ateliers de dessin qui sont un peu en lien avec mon projet de création, le projet que je mène ici, qui est un projet de livre illustré où je parle d'une femme, Berenice, qui se métamorphose avec sa maison. La maison qui est un lieu de qui nous protège et qui nous renferme aussi. Et mes ateliers partent toujours du dessin d'observation. On observe de choses, de plantes, des objets qui sont autour de nous. Et après, on va se métamorphoser avec. On va dessiner des écorces pour nous, des plumes. On pourra créer de nouveaux bras, jambes, ailes, ce qu'on veut. Dessin et métamorphose.
Et ça a lieu quand?
Les mardis après-midi, de 15h à 16h30, dans l'atelier du Poinçon, juste à côté de la buvette.
Voilà, au Poinçon et au Sismo, dans ce magnifique espace. On rencontre Charlie. Alors, si j'ai fait le calcul, lundi, mardi, vendredi, il nous reste...
Le mercredi.
Le mercredi. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut faire le mercredi au Sismo?
Alors, ça change un peu tous les mercredis, mais on est quand même pas mal autour de la sculpture et de l'assemblage. Moi, j'aime bien qu'on aille, j'aime bien marcher comme Elena. Donc, j'amène les patients et les patientes en balade dans le parc. Et je suis aussi une cueilleuse, donc j'aime bien ramasser. Ce qu'il y a par terre. Donc, on ramasse des choses. Puis après, on les emballe parce que chaque chose est importante. Donc, nous faisons des petites momies. J'ai ramené aussi pas mal de fils. Donc, on prend soin des petites choses qui sont tombées par terre. Voilà.
Suzanne, il nous reste 30 secondes pour une dernière question.
Oh, ce n'est pas une question, c'est une affirmation.
Vas-y.
Alors, pour Léa... J'ai transformé des cauchemars en réalité. Mais, en réalité, après 40 ans, voire 50, qui se sont transformés par des belles réalités. Et ces cauchemars sont nés d'expériences absolument rocambolesques et qui travaillaient le subconscient et que je ne pouvais parler. Et maintenant, comme c'est venu à la conscience, ça s'est transformé en concret au niveau famille. Voilà, c'est tout beau, c'est vraiment tout réel et les cauchemars n'existent plus.
Voilà, donc même les cauchemars peuvent se transformer en de belles choses si on y accorde du temps. Nous arrivons au terme de cette émission, du temps, il n'y en a plus. Le 16 avril, vous retrouverez Jimmy Timmerman, les rubriques et les chroniques habituelles. Merci Charlie, Elena, Léa, François. Merci Julien Morand, qui non seulement est à la technique, mais c'est lui le responsable des résidences d'artistes. Donc c'est lui qui a sélectionné les personnes merci autour Julien. De la table. Julien, merci. Julien, j'ai dit Julien Morand, oui. Et c'est lui qui a rédigé et composé ce catalogue qui se trouve maintenant dans toutes les unités. C'est une innovation qui présente les artistes, qui donne les heures d'atelier et qui présente quelques œuvres. C'est super, c'est merci. Et comme on a navigué entre Paris et Bruxelles, on va écouter une chanson d'un Hollandais qui chante en français et qui parle de Paris et de Bruxelles. C'est Dick Annegarn, merci.
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 Bruxelles, ma belle, Je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense. Ministère de la bière, artère vers l'enfer. Place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse.